Les informations, Margot Delpierre.
Bonjour à tous. Avant la reprise des discussions le 7 janvier, les actions continuent pour protester contre la réforme des retraites. Deux raffineries sont à l'arrêt. De l'instabilité chez Boeing, le patron Dennis Muilenburg démissionne. Son successeur arrivera à mi-janvier. L'avionneur américain doit regagner la confiance des autorités et du public après deux accidents de 737 MAX. La loi controversée sur la citoyenneté en Inde pourrait avoir fait perdre une élection au parti au pouvoir. Des manifestations violemment réprimées durent depuis deux semaines. Explication de notre correspondant sur place. On connaît désormais la date de reprise de la concertation sur la réforme des retraites. Les partenaires sociaux seront reçus le 7 janvier pour discuter des questions de pénibilité et de gestion de fin de carrière. Pour les recevoir, plusieurs membres du gouvernement, les ministres du Travail et de la Santé, Muriel Pénicaud et Agnès Buzyn, les secrétaires d'État chargés des retraites et de l'action et des comptes publics, Laurent Pietraszewski et Olivier Dussopt. En attendant, les grèves continuent, notamment dans les raffineries. Les salariés là-bas n'ont pas de régime spécial, mais bénéficient d'une retraite complémentaire Agirc-Arrco. Elle devrait être absorbée dans le futur système universel à points. Les salariés réclament le retrait du projet de réforme. Deux raffineries ont décidé de se mettre à l'arrêt, celle de l'Avera dans les Bouches-du-Rhône et Grand-Puy en Seine-et-Marne. De son côté, le ministère des Transports se veut rassurant, Marie Viennot.
Sur cette question des pénuries d'essence, c'est communication contre communication. Côté gouvernement, le ministère des Transports affiche depuis le mouvement de grève dans les raffineries, c'est-à-dire depuis le 5 décembre, sa totale quiétude. Encore hier, alors que deux raffineries sur huit ont décidé de se mettre à l'arrêt, il écrit dans un communiqué « La logistique pétrolière est robuste, elle repose sur un réseau de 200 dépôts et actuellement, seulement 2 sur 200 connaissent des difficultés temporaires dans leur expéditions. Il n'est donc pas nécessaire, dit le communiqué, de faire des pleins de précautions. En d'autres mots, c'est la crainte de la pénurie qui pourrait causer la pénurie. Du carburant dans les cuves, oui, il y en a. C'est même la conséquence de la grève, car depuis le 5 décembre, les livraisons vers les dépôts ont été limitées, voire interrompues. Mais ici ou là, la pénurie est déjà là et elle va s'accentuer, selon Thierry Defresne, délégué syndical central de Total Raffinerie, parce que ce carburant ne pourra pas passer des raffineries aux dépôts, puis des dépôts aux stations essence, faute de personnel non gréviste pour assurer son acheminement.
Des ruptures partielles, on en a. Là, actuellement, au moment où je vous parle, sur 2000 stations Total, on en a à peu près une quarantaine qui sont complètement à sec et on a 500 qui sont au moins en rupture sur au moins un produit. On ne sera pas en pénurie complète en France. On aura des produits à des endroits, mais le transfert vers les dépôts, le chargement des camions ou les sorties de raffinerie, ça va être extrêmement difficile. Donc voilà, ce produit va être entre guillemets piégé.
Ce qui va être crucial dans les jours qui viennent, c'est donc le pourcentage de grévistes dans les raffineries et les dépôts. En tout cas, c'est clair, il n'y a pas de trêve des confiseurs entre les raffineurs opposés à la retraite à points et le gouvernement.
Pas de trêve non plus à la SNCF et à la RATP où plusieurs syndicats continuent de faire grève. 2 TGV sur 5 circulent en moyenne aujourd'hui, 1 Transilien sur 5 et 4 TER sur 10. Les Transiliens s'arrêteront progressivement de circuler à partir de 18h jusqu'à demain après-midi au moins. À Paris, 6 lignes de métro sur 16 sont toujours complètement fermées. Le parquet national antiterroriste s'est saisi hier de l'enquête sur l'attaque aux bonbonnes de gaz. Elle visait des villas du sud de la Corse appartenant à Pierre Ferracci, un homme d'affaires président du Paris Football Club et réputé proche du chef de l'État Emmanuel Macron. Une attaque revendiquée par le Front de Libération Nationale Corse qui, il y a plus de 3 ans, annonçait pourtant un processus de démilitarisation. Il était fragilisé par le scandale des 737 MAX. Le patron de l'avionneur américain Boeing a annoncé sa démission hier. La réputation du groupe est largement ternie depuis les deux accidents impliquant des 737 MAX et qui ont fait 346 morts. Le premier fin octobre 2018, le second en mars dernier. L'entreprise affirme qu'un changement à la direction est indispensable pour restaurer la confiance perdue. Mais cela paraît pour le moins difficile. À New York, la correspondance de Loïc Loury.
Il répétait depuis des mois ne pas vouloir fuir les difficultés. C'est pourtant sans surprise que Dennis Muilenburg quitte ses fonctions. Lui, le visage de la plus grave crise de l'histoire de Boeing. 346 morts en l'espace de quelques mois, deux catastrophes aériennes majeures, la Lion Air puis l'Ethiopian Airlines et à chaque fois un 737 MAX impliqué. Résultat, depuis mars dernier, l'appareil est cloué au sol, sans date de remise en service. La production de ce qui devait être l'avion star du constructeur, elle, s'arrêtera le mois prochain faute de débouchés. Mais au-delà de tout cela, Dennis Muilenburg paye aussi une gestion de crise désastreuse, le fait de blâmer les pilotes dans un premier temps, son silence malvenu ensuite face au drame des familles, sans compter les révélations explosives qui ont émaillé l'enquête, les dysfonctionnements du processus de certification de l'avion notamment, ou encore la proximité troublante de Boeing avec le régulateur américain. Le départ de Muilenburg, remplacé par un directeur indépendant, apparaît donc aujourd'hui comme une nécessité. Il y a fort à parier toutefois que la crise chez Boeing est loin d'être terminée.
La justice saoudienne a condamné hier 5 personnes à la peine de mort pour le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi. Et c'est, je cite, « un pas important pour faire payer tous ceux qui sont responsables », selon les États-Unis, par la voix d'un haut responsable américain. La Turquie et plusieurs organisations de défense des droits humains ont au contraire déploré la décision du tribunal de Riyad, qui par ailleurs exonère 2 des principaux suspects. Jamal Khashoggi collaborait avec le quotidien américain le Washington Post. Il a été tué en octobre l'an dernier dans le consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul. Le BJP, parti au pouvoir en Inde, vient d'essuyer un revers électoral. Il a perdu hier l'élection dans l'état du Jharkhand. Depuis 2 semaines, des manifestants protestent contre une nouvelle loi sur la citoyenneté jugée discriminatoire envers les musulmans. Cette défaite galvanise les opposants au parti du Premier ministre Narendra Modi. Antoine Guinard.
Le parti du Congrès, son allié régional au Jharkhand, s'apprête à prendre le pouvoir dans cet état de l'est de l'Inde qui était aux mains du BJP depuis 5 ans. C'est le 3e échec en moins de 2 mois pour la formation nationaliste hindoue du premier ministre indien Narendra Modi après des performances électorales décevantes dans 2 autres états. Les élections au Jharkhand reposaient avant tout sur des problématiques locales, mais il n'empêche que cette défaite porte un coup au BJP, qui subit une contestation sans précédent depuis son arrivée au pouvoir en 2014. Depuis l'adoption par le Parlement d'une loi controversée sur la citoyenneté le 11 décembre, des manifestations incessantes ont éclaté à travers l'Inde pour demander son retrait. Cette loi octroie la nationalité indienne aux minorités religieuses non musulmanes du Bangladesh, du Pakistan et de l'Afghanistan voisins. Elle est toutefois perçue comme discriminatoire envers les musulmans par de nombreux Indiens qui sont descendus dans les rues ces 10 derniers jours. Face à cette vague de manifestations, le gouvernement Modi a opté pour la répression et ne fléchit pas. Lors d'un meeting politique organisé à New Delhi dimanche, le Premier ministre a à nouveau défendu cette loi sur la citoyenneté, dénonçant, je cite, « les mensonges propagés par l'opposition » et affirmant qu'aucun citoyen ne serait dépouillé de ses droits. De quoi convaincre ses sympathisants, mais pas une grande partie de la société civile indienne qui s'inquiète des dérives possibles d'une telle loi.
Antoine Guinard. Revenons en France en cette veille de Noël. Traditionnellement, une messe se tient en la cathédrale Notre-Dame de Paris à minuit. Mais pour la première fois depuis 1803, elle n'aura pas lieu dans le célèbre édifice ravagé par les flammes en avril dernier. À la place, les fidèles pourront suivre la messe en l'église Saint-Germain, l'Auxerrois, tout près de Notre-Dame. Le reportage de Nicolas Fillon.
À peine les portes de l'église Saint-Germain-l'Auxerrois franchies et la messe de midi terminée, les mots sont lâchés.
C'est très difficile, on est naufragé, c'est un crève-cœur.
Pour ce fidèle de Notre-Dame, l'absence de messe de Noël en la cathédrale a du mal à passer.
Ça fait plusieurs années qu'on va prier à Notre-Dame, donc là on se sent un peu orphelin, il faut faire avec. Donc j'irai dans une paroisse à côté de chez moi.
Paroissienne à Saint-Germain-l'Auxerrois, Marie est également très marquée.
C'est toujours triste de voir que Notre-Dame est fermée. Ça me fait beaucoup de peine. Mes frères ont fait leur première communion à Notre-Dame. J'ai été baptisée à Notre-Dame.
Mais elle veut dédramatiser la portée symbolique de la messe de Noël dans son église à la place de Notre-Dame.
Ce sera une messe de Noël. Vous savez, une blessure, c'est long à cicatriser. L'incendie de Notre-Dame, c'était une blessure terrible pour tous. Mais on pense tout de suite à la reconstruction. C'est notre devoir de chrétiens de toujours avancer.
Monseigneur Marseille va célébrer la messe de Noël à Saint-Germain-l'Auxerrois dans le même état d'esprit.
Pendant 3-4 ans, il va falloir qu'on s'habitue à plus célébrer la messe là, en tout cas seulement pas dans les conditions traditions habituelles. Que ce soit à Saint-Germain-l'Auxerrois, à Notre-Dame de Paris ou à Saint-Sulpice, ça sera Noël. Hein.
Ce qui le préoccupe, c'est plutôt la remise sur pied de Notre-Dame.
On n'est pas encore dans la reconstruction, on est encore dans l'audit qui va nous permettre de pouvoir faire un vrai diagnostic des pierres, voir celles qui pourront être réutilisées ou pas. Si l'édifice très largement solidifié par les cintres posés sur les contreforts de l'église de Notre-Dame va tenir ou pas.
Un peu inquiet, Monseigneur Marseille veut tout de même positiver.
Ça fait 9 mois que Notre-Dame est par terre, mais si Notre-Dame église est par terre, Notre-Dame Marie n'est pas par terre. Elle est tout près du ciel, elle nous donne toujours son enfant et nous on a toujours dans l'espérance que tout ne se passe pas dans des bâtiments de pierre, mais tout se passe aussi dans les cœurs.
Reportage de Nicolas Fillon. La Savoie et la Haute-Savoie sont toujours en vigilance orange, avalanche, l'Ille-et-Vilaine et la Charente-Maritime pour des risques d'inondation. Le temps aujourd'hui sera pluvieux sur une majeure partie du pays. Sec et ensoleillé près de la Méditerranée. Comptez 11 degrés au maximum à Lille, 13 à Paris, 14 à Bordeaux, 16 à Nice et 20 degrés à Perpignan.